Bienvenue dans Éclat de lire, vous êtes sur Radio Éphémère 89.1. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver, puisqu'il est déjà venu à cette antenne, il s'agit de Claude Mesplède. Bonjour Claude Mesplède.
Bonjour.
Et également un autre invité qui m'a drôlement sauvé d'un mauvais pas. Et c'est Monsieur Dusport, que
Bonjour.
Vous connaissez bien. Bonjour Monsieur Dusport.
Bonjour.
Alors bien évidemment aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de livres, puisqu'il s'agit d'une émission consacrée aux livres, mais surtout de livres de littérature policière. Alors, Claude Mesplède, il y a quelques temps, il y avait eu une nouvelle édition du Festival Toulouse Polar du Sud. On fera un petit bilan peut-être un peu plus tardif.
Tout à fait, au mois d'octobre, deuxième week-end d'octobre, toujours,
voilà.
Fidèle à cette date.
Ensuite, vous nous parlerez, vous ferez un coup de chapeau à quelqu'un qui nous a quittés,
Joseph Biallo, un grand écrivain et un grand ami, et un grand homme tout simplement.
Et on parlera également d'un nouvel opus sur lequel vous êtes en train de travailler.
Oui, mon 17e ouvrage.
30 ans d'écrit sur les littératures policières.
Oui, alors j'ai fait une compilation, ça tient en 3 volumes, mais il n'y aura pas assez de place pour tout mettre. Alors il y aura déjà beaucoup de choses, mais pas tout. C'est fou ce qu'on peut écrire.
Et ces écrits sont parus où est-ce qu'on a pu les trouver? Quand?
Eh bien, justement, c'est des écrits qui sont parus dans le désordre. C'est pas des livres que j'ai déjà faits. Sauf s'il y a mon poulpe que j'ai écrit, qui était épuisé, que j'ai glissé dedans avec l'accord de l'éditeur. Mais il y aura des essais que j'ai publiés dans des revues comme Europe, Temps Moderne, le magazine littéraire, l'événement, enfin tout un tas de grandes revues qui font des numéros spéciaux. Il y a toujours un moment où ils me demandent un article sur tel ou tel truc, sur les Chinois, sur les Indonésiens, enfin sur tout ce qui est le polar. Et aussi une revue qui s'appelle Mouvement, où j'ai écrit sur le roman noir, parce que j'estime que avec la prolifération des blogs, des internets et tout ça, on lit pas mal de conneries sur ce thème. Et je veux d'ailleurs faire mon 5e ouvrage l'année prochaine, puisque j'ai prévu d'en faire 5. Ça sera sur cette histoire-là du roman noir américain, une histoire subjective et enthousiaste.
Alors, on pourrait d'abord mettre les choses au clair, parce qu'on parle alternativement de polar, on parle de roman noir.
Oui, beaucoup
alors,
de confusion.
Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la vraie définition, en fait?
Ben, il y a des différences. C'est-à-dire que moi, ce qui s'appelle polar, pour moi, c'est l'ensemble de tout ce qui est publié dans le domaine de des littératures policières. C'est pour ça que j'ai un dictionnaire qui est au pluriel. Parce qu'il y a les thrillers, il y a le polar, il y a le roman noir, il y a l'enquête, il y a tout un tas de sous-genres et de genres. Et pour tout ça, pour moi, c'est des polars. Pour d'autres, le polar, c'est le synonyme du roman noir. Alors, la différence entre un roman policier et un roman noir, c'est tout simplement qu'un roman policier, généralement, on prend comme exemple une enquête de Hercule Poirot, d'Agatha Christie. À la fin du livre, le coupable est démasqué et châtié. Dans un roman noir, le coupable est des fois connu au début du livre, et des fois à la fin, mais il n'est pas toujours châtié. C'est-à-dire que c'est un livre qui prend ses racines dans la vie sociale, dans la vie de qui nous démontre ce que l'on croyait comme des certitudes, que c'est pas tout à fait des certitudes, et qui nous fait voir que c'est pas toujours les assassins ou les coupables qui sont punis. Donc c'est un roman qui est plus réaliste que le roman d'énigme pure, qui lui est un jeu intellectuel entre l'auteur et le lecteur, qui lui laisse des pistes et il doit trouver qui a fait le coup, quoi. Ce qu'on appelle le whodunit en anglais.
Le whodunit, ouais.
Qui a fait le coup, quoi. Alors, le roman noir, c'est plutôt un roman d'approche sociale qui traite de la société, des dysfonctionnements, des choses qui nous oppriment, des forces occultes qui nous dirigent, enfin tout ça, tous ces trucs-là qu'on ne sait pas toujours trouver. Et la façon de le faire trouver pour l'écrivain, c'est de prendre un mystère, et comme on est tous curieux, on veut savoir la suite du mystère, et il nous embarque dans des routes qu'on n'avait pas prévu de prendre. Voilà. C'est un peu vague, mais ça mériterait d'autres explications. Mais
alors, on va prendre un exemple un peu plus précis. Si je dis Le Grand Sommeil, C'est quoi? C'est un polar ou un roman noir?
C'est un roman noir, mais c'est aussi un polar puisque le roman noir fait partie de l'ensemble des trucs. Le Grand Sommeil, oui, c'est un roman noir, absolument. C'est de Raymond Chandler et c'est un homme qui a une histoire passionnante, celui-là aussi. Parce que il voulait s'engager pendant la guerre dans l'armée américaine. Il était de fils d'une Anglaise et d'un Américain qui avaient divorcé. Il voulait s'engager dans l'armée américaine et il a été refusé. Alors il est allé au Canada et là on l'a pris. Mais deux jours après leur arrivée en Bretagne, son régiment a été complètement décimé. Il était le seul survivant. Alors j'imagine qu'un type qui est le seul survivant d'un régiment, il doit avoir une drôle de truc dans sa tête. Et il est revenu un peu marqué par tout ça. Et il a écrit des lettres notamment, qui sont publiées en recueil, qui sont aussi intéressantes que ses livres, parce qu'il dit plein de choses sur la vie et il prend les autres pour des pourceaux. Il avait une vraie vilaine opinion des hommes en général. Et alors dans ses livres, il peint à la fois le Hollywood ou le Los Angeles des riches et celui des pauvres. Mais les riches, pour lui, ils sont sans goût, ils n'ont aucune qualité, quoi. Il les dénigre sans arrêt.
Oui, à propos de Chandler, faut aussi dire que son aventure hollywoodienne ne s'est pas très très bien passée non plus.
Absolument, mais pour lui comme pour tous ceux qui ont été appelés au cinéma, parce que c'est vrai que vous avez raison de souligner, tous les grands auteurs américains du début de la première génération, il y a Hammett, Chandler, McCoy, Tracy et compagnie, Latimer aussi, ont été appelés à Hollywood, parce que Burnett surtout,
ouais,
qui
Burnett,
a fait
30
films. Ils avaient le don de l'ellipse pour raconter des histoires et donc ils étaient les mieux placés pour raconter des scénarios. Mais c'est un peu le drame qu'on vit en ce moment avec la télé et nos auteurs. C'est-à-dire qu'il y a des préemptions sur le film. C'est des choses avec les commerciaux, avec ceci, avec cela. On ne doit pas parler de ça parce qu'on a telle publicité. Enfin, tout ça est une histoire de gros sous toujours. Et le talent dans ces conditions-là, il n'a pas droit à la cité. C'est toujours comme ça. Et Chandler était un peu alcoolo aussi, comme beaucoup de ses confrères.
Oui.
Mais je crois que, comme disait Manchette, certains en ont marre de la vie, certains boivent, d'autres on ne sait pas, mais ils sont tous marqués par la vie et la société et les conditions de leur travail, je pense. Et ça incite, en plus de leur penchant naturel, ça doit renforcer l'effet alcool.
On parlait de Chandler, on a parlé, il fait partie un petit peu des premiers, on va dire, hein, des précurseurs.
Oui.
On va dire, mais le polar proprement dit, ou le roman noir, n'est pas né avec cette nouvelle vague qui a été instillée par les pulps des années 20.
C'est-à-dire que on fait partir en général l'histoire du roman noir américain de 1922 dans Black Mask, qui est un pulp. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait des précurseurs, ce qu'on appelle qui faisaient du roman noir sans le savoir. Par exemple, Guy de Maupassant, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, faisait du noir sans le savoir. Il n'y a qu'à lire le livre sur cette petite fille qui est violée par le maire du village et qui se confesse par lettre et ensuite qui se renie. Enfin bon, c'est une histoire tout à fait noire et qui démontre que les édiles ne sont pas toujours aussi propres qu'on voudrait et puis qu'ils se servent de leur pouvoir pour éviter d'être punis. Il y a tout dedans. Et c'est Maupassant qui l'a fait. À l'époque, on n'appelait pas ça du roman noir. C'était il y a les frères, comment ils s'appelaient là, Erckmann et Chatrian. Il y a une nouvelle que j'ai sortie dans mon recueil qui est magnifique, qui est une nouvelle noire. C'est une femme qui cherche son enfant et on a tué son enfant pour je ne sais plus quoi en faire, mais enfin, c'est difficile à raconter à l'antenne. Alors, pour revenir aux Américains, les premiers précurseurs, pour moi, c'est Stephen Crane qui a écrit The Red Badge of Courage, l'éloge du courage, où il met en scène, pendant la guerre de sécession, un soldat qui a la trouille. Or, à l'époque, les soldats, c'était des héros. On ne pouvait pas montrer quelqu'un qui avait peur, parce que c'était revenir à des notions qui n'étaient plus celles de la de porter au pinacle.
Excusez-moi de couper. Aux États-Unis, et ça date depuis des siècles, enfin depuis que pratiquement il y a eu cette conquête des États-Unis, en fait, c'est un pays qui est quand même basé sur la notion de héros et de héros individuels. Et ça s'est vérifié dans les westerns, ça se vérifie encore au début dans les polars. Mais après,
oui, mais
ça bascule à un certain moment.
Pourquoi ? C'est parce que la littérature américaine n'a pas d'histoire. Les Américains sont fondés en 1600 et quelques. Leur littérature commence avec Fenimore Cooper, L'Espion. C'est le premier roman qui est considéré comme typiquement américain, parce qu'avant, c'est des ressuscés d'anglais, parce qu'il n'y avait pas de droit de copyright. Vous savez, c'est Benjamin Franklin qui a instauré ça, le droit de copyright, si bien que les types, au lieu d'avoir la facilité de publier les anglais, puisqu'il n'y avait pas de droit, sont emmerdés, donc ils prennent aussi des Américains. Et le premier Américain, c'est Fenimore Cooper, c'est L'Espace, les pionniers. Après, c'est Mark Twain, qui, sous des dehors rigolards, donne cette notion déjà d'écriture, une écriture parlée. Il dit, tiens, je vais vous raconter, les gars, un truc comme ça, comme on dit maintenant quand on chante des blues ou des choses comme ça. C'est plus l'écriture en poulet du 18e siècle anglais, c'est l'écriture du franc-parler, et avec des mots nouveaux. Et surtout la notion d'espace, de liberté, avec le Mississippi, les grands voyages. Mais le héros, il vient naturellement, parce qu'il n'y a pas d'autre truc avant, il n'y a pas d'histoire de chevalier de la table ronde, il n'y a pas tous ces trucs-là qu'on a eu, nous. Et c'est ce que disait un de leurs qui a écrit, tiens, je crois que c'est, qui a écrit La Tour d'écrou. Il disait, nous, c'est difficile de faire de la littérature parce qu'on n'a pas de passé. Et donc, il faut inventer tout, quoi. Et donc, les héros, ils naissent naturellement parce que c'est un pays tout neuf avec ses méchants, ses bons. Et justement, dans les premiers écrits comme ça, qui s'appellent les dime novels, qui datent de 1860, alors que les pulp, c'est 1915, ils mettaient les personnages, les bons et les méchants, c'était décrit à gros traits. Pourquoi ? Les gens disent que c'est quand même pas très finaux. Mais parce que c'était toute une nation qui était d'immigrés, parce que ça n'a pas arrêté d'arriver de tous les pays, qui possédaient mal la langue anglaise à l'époque et qui devaient identifier au premier coup d'œil qui était le bon et le méchant. On ne pouvait pas leur faire des choses subtiles, quoi, je dirais. Et ça, on l'oublie toujours, que les États-Unis, ils ont une histoire qui est courte. Et donc, par exemple, si on prend le personnage du détective privé, qui est un des personnages emblématiques, oui, à cette époque-là. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que vous savez qu'il y a eu en 1920 le vote d'une loi qui était la loi de la prohibition.
En 1918.
Elle a été applicable en janvier 1920. Parce qu'elle a été votée un an avant. Et c'était une loi que les puritains ont préparée. Ils l'ont préparée depuis un siècle. Ça a l'air ahurissant, mais depuis un siècle, les puritains, parce que il faut aussi se replonger dans le contexte, les types buvaient beaucoup. Rappelez-vous, à l'époque en France, l'assommoir de Jodola. Bon, ils battaient les femmes, ils travaillaient mal au boulot parce qu'ils étaient complètement pétés à chaque fois. Donc c'était au départ une action de salubrité publique. Et puis c'est devenu une action, comme les puritains, pour qu'ils font chier tout le monde, une action de choix sur la société, etc.
Oui, puis c'est un retour aux sources aussi, parce que bon, ces fameux puritains, c'est quand même eux qui ont été les premiers à coloniser l'Amérique.
Bien sûr, c'est eux qui sont arrivés, qui ont foutu. D'ailleurs, l'américain 100%, vous savez comment il est défini, ce qu'on appelle l'américain 100%, c'est le WASP, c'est white, blanc.
White anglo-saxon, protestant.
Anglo-saxon et protestant. Ouais, c'était le type même du puritain, un peu. Et par exemple, dans leur discours, le roman n'avait pas le droit de citer, parce que le roman était une invention du diable qui transposait la réalité, qui la façonnait pour tromper les gens, et ils ne pensaient qu'en pamphlet et en poème et en essai philosophique, les puritains. Ça devait être très chiant d'être avec des puritains. C'est pour ça qu'il y a un film qui s'appelle La Horde Sauvage, je me marre tout le temps quand je vois le début, parce qu'il défile en disant non à l'alcool, et puis il y a des malfrats qui arrivent à cheval, ils tombent tous dans la boue, ils sont ridicules, et c'est très bien pour eux, parce que l'alcool, ça doit pas être interdit, après tout. On a son juste devoir de savoir s'il faut en boire ou pas. Mais alors donc, pour revenir à notre privé, à l'époque de la Prohibition, ça a déchaîné d'une part la rivalité entre les truands pour s'accaparer les parts de marché, ça a fait de chaque homme honnête un délinquant puisqu'il transgressait la loi, et ça a développé la corruption chez les flics et chez les édiles municipaux. Donc il n'y avait pas un seul flic qui touchait pas d'argent là-dessus. Alors c'était ridicule de mettre un flic comme personnage central d'un livre. Les lecteurs se marraient tous parce qu'ils savaient tous que le flic du coin de la rue chez eux, il touchait du pognon pour fermer les yeux sur la prohibition. Donc ils pouvaient pas l'admettre en tant que personnage honnête dans un livre. C'est ce qui fait que ça a été un détective. Et en plus, pour ma part, j'ai une analyse tout à fait personnelle. C'est que le roman noir surgit quand la classe ouvrière a été battue par le patronat. Pendant 80 ans, ils se sont battus et ils ont réussi à les mater au bout de cette période-là. Le dernier exemple, c'est Sacco et Vanzetti qui arrive quelques années après. Et pour le commun des mortels, le détective privé représente la seule résurgence de ce mouvement. C'est un espèce de personnage qui est témoin de son temps. Et c'est le seul luxe qu'on peut se permettre quand on a perdu la bataille. C'est une analyse personnelle, mais qui a été reprise par un universitaire qui a fait un thème là-dessus, qui était très très chouette.
Voilà. Oui, le détective, c'est également le privé, c'est également le personnage un petit peu emblématique de ce qu'est la culture américaine. Est-ce que ce auquel veulent tendre les Américains, c'est-à-dire que je me fais tout seul et si ça marche, eh bien je vais devenir riche, je vais être tranquille et tout. C'est un petit peu comme ça que fonctionne la société américaine encore de nos jours, hein, c'est-à-dire que et ce qu'a essayé de nous faire Sarko il y a pas si longtemps que ça. Et c'est un être qui est positif parce que il est un petit peu anard, il est tout seul, il n'a pas de loi, il a ses propres lois, il essaye de temps en temps de biaiser comme ça, quoi, avec les lois qui sont existantes, c'est lui qui, généralement, dans la plupart des cas, s'en sort relativement bien, même s'il doit passer par des méthodes que le commun des mortels, même nous, on pourrait réprouver, à la limite.
Je suis pas tout à fait d'accord à 100% là-dessus, parce que ce qui est contesté par les auteurs et sous la forme du détective, c'est ce que vous appelez le rêve américain, c'est-à-dire.
C'est ça. Oui.
D'accord. Il démontre que le rêve américain, c'est Pipeau et compagnie. Mais le détective privé, justement, si souvent il boit, c'est parce qu'il est désemparé devant cette société. Si on appelle ça le roman noir, parce qu'il faut revenir à notre départ, le roman noir, c'est parce que c'est un type qui est désespéré devant la société dans laquelle il évolue. Je pense pas qu'il rêve de se faire tout seul, parce que si vous prenez les exemples qu'il y a, par exemple, chez Ahmet, son détective privé, c'est le Continental Op. Ça veut dire l'opérateur Continental, c'est
un petit peu comme la Pinkerton.
Salarié, il est salarié d'une maison qui s'appelle la Continental et on ne connaît pas son nom. Et il répond aux missions que lui donne son patron. Donc il n'a pas une espérance de réussite formidable, mais simplement il a sa morale à lui, sa conscience à lui, et il essaie de faire au mieux de ses propres principes à lui. Mais je pense pas qu'il ait comme vocation de devenir quelqu'un de très haut placé. Si on prend Marlowe qui est chez Chandler, c'est pareil, lui, il dit comme ça d'ailleurs, on me paye mais on ne m'achète pas. On me paye pour les travaux que je fais, mais on ne m'achète pas. Il se refuse à faire des concessions pour accroître sa position personnelle, par exemple. Donc, c'est des gens qui ont une espèce de rigueur de la vie, mais qui, comme vous dites, qui sont anards, un peu libertaires, tout ce qu'on voudra, et qui vivent comme cela, mais qui savent que le rêve américain, ça n'existe pas. Je pense qu'ils sont... Ils sont complètement rassurés là-dessus. Ils le foulent au pied, ce truc-là. Mais il faut quand même se reporter au premier détective réel de l'histoire des États-Unis, c'est l'agence Pinkerton. C'est un Écossais qui est venu aux États-Unis, qui travaillait comme tonnelier. Il faisait des tonneaux, c'est chacun son métier, quoi. Et un jour, il a chopé un pickpocket qui avait volé le sac de sa voisine du village où il habitait. On l'a élu shérif adjoint du village. Et puis, son idée à lui, c'était de créer une agence privée comme Manpower, mais au lieu que c'était pas des intérimaires pour le boulot, c'était des détectives qui traquaient les pickpockets dans les trains, parce que c'était le début des trains, c'est en 1850-60. Et à Chicago, il a réussi à créer cette petite officine. mais c'est devenu très grand parce que il a servi de service de renseignement à Lincoln pendant la guerre de sécession, puisqu'il avait des officines dans plusieurs villes, et c'était le lien qui se faisait entre eux. Il faut pas imaginer les États-Unis comme aujourd'hui. Il y avait 7-8 États du Nord et autant du Sud. Et la guerre de sécession, qu'on dit basée sur la libération des Noirs, de l'esclavage, ça aussi, c'est de la poudre aux yeux.
Oui,
ça,
c'est du pipeau, oui.
C'était le prétexte, mais la vraie raison de cette guerre, c'est que le Sud, économiquement, dominait le Nord, alors qu'ils étaient plus faibles en nombre et tout ça. Mais ils avaient tous les pouvoirs dans un certain nombre de directions de trucs. Et le Nord a voulu amoindrir la position économique du Sud, qui vivait de coton, de tabac et de tout ça. Ça, on le raconte moins, mais c'était la vraie raison. Alors Pinkerton, dans cette affaire, il a soutenu Lincoln, il a évité un attentat, il lui a sauvé la vie, et à la fin de la guerre, il a eu tous les pouvoirs, non seulement celui de traquer les pickpockets dans les trains, mais de traquer les syndicalistes qui faisaient du porte-à-porte pour constituer des sections syndicales un peu partout. Parce que il y avait une règle très simple, il fallait réunir les salariés et les faire voter à plus de la moitié pour adhérer à l'international CIO ou AFL. Et les types, ils faisaient le chemin d'usine en usine, mais souvent, ils n'arrivaient pas au bout parce qu'ils avaient été traqués par des flics, le shérif, ou par des Pinkerton qui étaient des assassins. Il y a plusieurs exemples comme ça, très connus, où ils ont kidnappé le mec dans sa chambre, ils l'ont traîné derrière une voiture pendant plusieurs kilomètres pour qu'il soit mort, puis après, ils l'ont cloué sur un pont avec des papiers indiquant que ceux qui continueraient à faire comme lui, ils subiraient le même sort. Alors l'image du détective est assez galvaudée dans ce domaine-là. J'ai un exemple, par exemple, en 1892, à l'usine de Carnegie, c'est dans le... Je ne sais plus dans quel état c'est... Il y a une usine occupée par les métallurgistes depuis des mois. Et alors, on dirait le relais du travail fait semblant de négocier avec eux, mais pendant qu'il les occupe en faisant des mines de négociation, il organise l'attaque du truc, puisque c'est occupé, par 300 Pinkerton qui arrivent sur plusieurs barques et qui prennent le fleuve qui va sur cette usine-là. Alors les types sortent un canon qui avait dû faire la guerre de sécession parce qu'il explose en miettes. Après, ils vont chercher des pains de dynamite, ils les jettent sur les mecs, mais ils les loupent. Alors ils finissent par mettre de l'huile verser de l'huile sur le fleuve et ils mettent le feu, les autres se tirent dans tous les sens parce qu'ils sont défaits. Le lendemain, le gouverneur mobilise 2000 hommes de troupes et ils vont sur l'usine, ils rasent l'usine et les occupants. Voilà un peu les méthodes qu'il y avait à l'époque. Il y en a une autre qui est racontée par James Cain, l'auteur du Facteur sonne toujours deux fois, qui était au départ un journaliste et qui a fait un livre qui s'appelle 60 ans de journalisme. Il raconte un procès qu'il a suivi où c'est des syndicalistes qui sont accusés. Mais dans le procès, il dit, à un moment donné, il y avait 5000 personnes qui se sont rassemblées sous un chapiteau, les femmes, les enfants, les hommes invalides, parce qu'on les avait virés des logements. Vous savez, le propriétaire, il avait la mine, le magasin où vous achetiez l'argent qu'il vous payait et le logement qu'il vous louait. Il avait tout à lui. Alors il les a foutus dehors, ils se sont rassemblés sous un chapiteau. Les types excédés, les patrons ont loué 4 avions, ils ont bombardé le chapiteau, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a... Alors c'est pas des bombes atomiques qu'ils ont lancées, mais vous voyez un peu les méthodes. En 1922, vous trouverez ça dans le livre de James Cain, qui n'était pas forcément un type progressiste, mais qui était objectif. Ça s'appelle La bataille du charbon.
Ok, je vais juste faire une parenthèse et citer pour les gens que ça intéresse ce genre d'histoire, justement l'histoire des États-Unis vue du côté du peuple, c'est l'excellent pavé, c'est carrément un gros pavé de Howard Zinn qui s'appelle l'histoire populaire, oui, qui est mort l'année dernière. Qui s'appelle l'histoire populaire des États-Unis, c'est un gros pavé, mais enfin oui, c'est très vraiment très très intéressant parce que on a absolument pratiquement toutes les histoires de toutes les luttes ouvrières qu'il y a pu y avoir aux États-Unis et on se rend compte que nous, en Europe, nos luttes ouvrières ont été vraiment très pacifiques, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis où ça a été très meurtrier, où il y avait énormément de morts, en fait.
Ben oui, mais il y avait aussi des traditions chez nous qui n'existaient pas là-bas. Et il y a aussi beaucoup de syndicalistes qui se sont tournés vers le banditisme à un moment donné où ça a été l'échec. Il y a quelques... Si on prend Jimmy Hoffa, par exemple, le chef du syndicat des camionneurs, ouais, dont on n'a jamais retrouvé le corps, Au début, il était idéaliste, c'est-à-dire il défendait ses compagnons de lutte, et puis il s'en est pris plein la tronche, et quand un de ses amis d'enfance, qui était mafieux, lui a proposé que la mafia s'en occupe, il a dit d'accord. Et la mafia s'en est occupée, ils ont gagné sur le plan syndical, mais après ils ont perdu toutes les caisses de retraite, tout ça, et ça a été géré par la mafia, et puis lui, il a perdu sa vie. Il y a un très beau film de...
Avec Jack Nicholson, ouais.
Non, c'est pas celui-là. Je pense à Levinson avec Sylvester Stallone, ça s'appelle Fist.
Ah oui, Fist. Ouais.
C'est un peu l'histoire de ça. Puis il y a Jimmy Hoffa par Stallone, oui, par Nicholson.
Ok, on va faire une petite pause musicale.
Oui, et... parce qu'on a beaucoup parlé.
Oui, oui, on a beaucoup parlé. Et on revient tout de suite après.
Toujours dans Éclat de Lire, hein, sur Radio Éphémère avec Claude Mesplède et Monsieur du Sport, et on parle bien évidemment des littératures policières. Alors, avant de conclure, avant de passer plutôt à l'hommage que vous voudriez faire à Joseph Bialo, on dit un petit mot de conclusion sur tout ce qui vient de s'échanger à propos des États-Unis et du polar.
Ouais, ouais, alors moi j'ai juste un petit bémol, enfin bon, ben c'est peut-être un oubli, mais enfin moi dans mon esprit, mon histoire du polar, du roman noir, ça commençait avec Edgar Poe et avec l'inspecteur Dupin.
On peut pas dire que
la lettre volée.
Noir, parce que Edgar Poe, c'est le début du roman policier, puisque le personnage de Dupin, c'est un personnage qui travaille par déduction. Donc c'est la première fois que ça s'interpose, qu'on voit ça dans une histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a daté la naissance de ce type de livre en 1841 avec une nouvelle qui s'appelle Double meurtre dans la rue
Morgue.
Mais moi je suis encore plus taquin que vous parce que je trouve que Hoffmann, le fameux Hoffmann qui a fait les contes d'Hoffmann, il a écrit Mademoiselle de Scudéry qui est un premier roman policier avant l'autre de Edgar Poe, puisqu'il date de 1818, où Mademoiselle de Scudéry, cette femme qui a inventé la carte du temps sous Louis XIV, et qui a vécu jusqu'à 94 ans, est une personne active de cette histoire, qui est une histoire de serial killer. C'est le premier tueur en série de toute l'histoire des policiers, et ça date de 1818. C'est un orfèvre, c'est-à-dire un bijoutier, qui vend des montres ou des bagues très, très chères à des messieurs qui ont de l'argent, qui veulent offrir ça à leur fiancée. Et le lendemain matin, inévitablement, on trouve le mec assassiné et la bague qui a disparu. Alors, il y a un jeune type qui est soupçonné, Mademoiselle Scudéry intervient. Mais c'est pour dire que on peut toujours trouver mieux.
Oui.
Il y a aussi le fameux truc, là, comment ça s'appelle déjà? Ça m'est reparti. L'assassinat pour des Beaux-Arts, là, c'est un peu ça, de Thomas de Quincey, un Anglais, l'assassinat. Et il a écrit trois histoires qui s'étalent sur 20 ans, alors c'est difficile à dater aussi. Mais enfin, le roman noir, c'est pas tout à fait un roman de déduction. C'est un roman qui critique la société, qui analyse ses dysfonctionnements. Et c'est pour ça qu'on peut pas le dater d'Edgar Poe, qui avait vraiment pas du tout l'intention de faire ça. Il rendait hommage à Vidocq. Notre fameux Vidocq François, qui avait été le premier bagnard à devenir préfet de police, et c'était quand il a écrit ses mémoires en 1828, ou qu'il les a fait écrire par des types qu'on appelait des réviseurs à l'époque. Elles ont fait le tour du monde, et Edgar Poe a été tellement stupéfait de lire ça, qu'en hommage, il a réussi à mettre Dupin en France et à situer ses trois nouvelles, il a faites en France, en hommage. Mais je pense pas que ça soit ça du roman noir. Parce que déjà, moi, je me suis trouvé dans un débat avec des types qui parlaient de roman noir avec Oedipe. Alors, alors je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, mais il faut quand même pas exagérer.
On peut remonter comme ça.
C'est pour ça,
oui.
Que je veux faire un truc là-dessus, parce que chacun, il met tout ce qu'il... Si vous mettez, une fois, on était en Espagne, vous prenez 20 écrivains espagnols, vous les mettez dans une pièce et vous demandez ce qu'est le roman noir, vous avez 20 réponses différentes. Chacun la voit à sa porte, comme dit l'autre.
Alors, quelques mots maintenant sur Joseph Biallo qui nous a quittés il y a 10 jours exactement.
Ouais, le dimanche 25 novembre. Alors déjà, je vous annonce que la semaine prochaine, le 11, mardi 11, je ferai une intervention à la librairie Série B qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines, rue Sainte-Ursule. Et donc, ça sera 19h, mardi 11 décembre. Nous parlerons donc de Joseph Biallo, de son œuvre et de ce qu'il était comme homme, parce que au-delà de l'œuvre, c'était un homme exceptionnel, comme on en rencontrera rarement dans sa vie. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer deux. Il y en a un qui s'appelait Robin Cook et le deuxième s'appelait Joseph Biallo. Ce sont des gens qui ont été confrontés à des tas d'épreuves, qui ont toujours gardé le cap, qui ont su se départir de tout ce qu'ils avaient subi pour être des gens amicaux, humanistes, et ça c'est important, parce que quand on a subi ce qu'il avait subi, alors pour rentrer dans les détails, Joseph Biallo, il s'appelle Biallo Blodo, c'est un
polonais.
Oui, je vais dire un portugais, non, c'est pas tout à fait la même région. C'est un polonais qui est né le 11 août 1923. Non, le 10 août 1923, parce que je dis ça parce que le 11 août, il a été déporté, donc juste, il venait de fêter ses 21 ans. Mmh. Alors, il est né en Pologne et en 1930, 7 ans après, il avait 7 ans, il est arrivé en France avec sa sœur et sa maman. Par un train, 2 jours de transport, et son père lui a dit, ils sont arrivés le 16 juillet, son père lui a dit, tu serais venu plus tôt, tu aurais vu les gens danser dans les rues. Alors il était tellement fasciné en disant, mais comment ça se fait? Il y a des gens qui dansent dans les rues, ils doivent pas être très normaux. Et tout son livre qui s'appelle Blues Belleville Blues, est un petit livre de 100 pages où il raconte plein de petites choses comme ça quand il était enfant. Alors par exemple, il va rentrer à l'école communale qui se situait 77 boulevard de Belleville. Et il rentre le 1er octobre, c'était la date des choses à cette époque-là, c'était le 1er octobre, on avait trois mois de vacances, je crois. Il connaît à peine le français, tout juste, puisqu'il est arrivé le 16 juillet, donc ça fait pas longtemps pour apprendre à 7 ans. Mais malgré tout, il est dernier de sa classe, et on le punit, et on le colle, on le met tout seul sur un banc à rester dans la classe pendant que les autres sont partis. Alors il ressent ça comme une profonde injustice. Et comme si ça avait été le déclencheur d'une truc, 7 ans plus tard, quand il passe le concours pour rentrer à l'école, au cours complémentaire, ce qui correspondrait, je pense, à la 6e aujourd'hui, où c'était à 14 ans qu'on rentrait là-dedans, il est premier de l'arrondissement. Et on lui remet un carnet de caisse d'épargne avec 90 francs. Et il précise, je n'étais pas encore naturalisé, sinon j'aurais eu 100 francs. Et il va faire deux pages de méditation sur le fait que d'être naturalisé ou pas, vous perdez 10 francs. Et il a tout perdu, lui, puisqu'après son carnet, c'était la guerre. Et donc, alors voilà. Alors, il était juif, bien sûr. Ça, c'est une de ses particularités qui ont fait qu'il a été déporté. Et pendant l'exode, il est descendu dans le sud de la France. Il a laissé sa famille et il est allé à Bordeaux, à Pau et à Grenoble. Il avait des faux papiers, évidemment. Et il racontait comment on avait des faux papiers. Il fallait acheter une carte d'identité normale, coller sa photo, faire valoir un extrait de naissance et à la mairie, vous tamponnez ça. C'était mieux que des trucs fabriqués. Alors, il se fait choper à Grenoble en sortant d'une réunion de militants communistes par la milice. Ses papiers sont en règle, mais comme il dit, on me fait passer par l'exécuteur de Saint-Prépuce. Oui, la machine a détecté Saint-Prépuce et puis il est capturé comme ça, donc sur le fait qu'il est juif. Il est en prison à Grenoble, puis il est transféré à Lyon après avoir été brutalisé par la Gestapo, le supplice de la baignoire, mais il n'a pas parlé, parce qu'il avait sa sœur qui était à la même adresse que lui, comme elle ne l'a pas vu rentrer, il a dû lui laisser le temps de s'enfuir. Donc il est mis dans un train, le dernier convoi qui est parti de France, le 11 août, depuis Drancy, et il va être amené d'abord à Birkenau, et ensuite à Auschwitz. Et là, il va raconter, s'il arrive en août 44, il sera libéré en janvier 45 par l'armée rouge. Ça fait pas beaucoup de mois qu'il y a passé, mais il a vu des choses horribles. Et notamment, il raconte un épisode avec une, c'est pas une polonaise, c'est pas une russe, je sais plus ce que c'est, sa nationalité. Elle est condamnée à mort, elle se tranche les veines devant le SS qu'il a, et elle lui crache dessus, elle lui met, elle le gifle et elle le barbouille de sang. Et puis voilà, elle est exécutée. Elle était déjà morte quand il est arrivé. Ouais, mais c'est ce qu'il a raconté. Alors il raconte donc ces histoires, mais il les a racontées 50 ans après. Parce que sa vie a recommencé, bien sûr, puisqu'il a été libéré par l'armée rouge. Il a mis 3 mois pour rentrer à Paris, parce qu'il est allé jusqu'à Odessa. Enfin, il a fait un périple incroyable. Et quand vous lisez ce livre, il y a une scène où vous ne pouvez pas rester insensible. Moi, j'ai pleuré comme un gosse. C'est quand il arrive chez lui, il monte l'escalier, il est au premier étage, il sonne, la porte s'ouvre, sa mère arrive, elle ne sait pas qu'il est là, bien sûr. Et ils se voient les deux, ils tombent dans les bras. C'est bouleversant. Mmh.
C'est ce qu'il raconte dans le livre C'est en hiver.
C'est en hiver que les jours rallongent, qui a été
rebaptisé
10 ans après avec 40 ou 50 pages de plus et qui s'appelle Votre fumée
montera vers le ciel.
Voilà. C'est des titres horribles qui disent bien ce qui est. Alors, au-delà de cela, parce que ça, c'est des livres qu'il a écrits, le premier C'est en hiver que les jours rallongent en 2002. Et Votre fumée, c'est en 2011. Livre, je le signale au passage, que François Maspero a qualifié d'aussi bouleversant que ceux de Primo Levi. Mmh. Ce qui est quand même une sacrée référence. Et il a écrit son premier livre à 55 ans, qui n'avait rien à voir avec la déportation. C'était un livre qui s'appelait « Le salon du prêt-à-saigner », qui se déroule dans le quartier du Sentier, puisqu'il était fourreur au départ, et c'est un quartier mythique pour ça. C'est le quartier de la fourrure, mais qui a beaucoup changé. La confection que... Dominique Manotti a écrit son premier roman qui s'appelle Sombre Sentier, qu'ils ont traduit en anglais et en espagnol par Sombre Sentier. Ils pensent que c'est un sentier de montagne, alors que c'est le nom même du quartier. Oui, mais qui a beaucoup évolué, parce que à un moment donné, quand elle raconte ça en 1980, elle était secrétaire syndicale du secteur, c'était des Turcs, il y avait 10 000 Turcs qui ont manifesté pour avoir des papiers, qui les ont eus, qui sont assimilés à la population française aujourd'hui. Maintenant, c'est des Coréens ou des Chinois qui les ont remplacés. Puis demain, ça sera autre chose. Chaque fois, chaque régénération, il y a eu des ethnies ou des nationalités différentes qui se sont intégrées et qui ont été remplacées par d'autres. Alors, c'est dans ce quartier qu'il raconte sa première histoire. C'est un Yougoslave qui s'appelle Josip, comme tout Yougoslave qui se respecte. C'est Josip, c'est bien Yougoslave. Et qui fait chanter les gens, qui les oblige à verser de l'argent sous forme de chantage. Jusqu'au jour où ils se révoltent, ces types-là, et puis c'est le drame. Le deuxième roman qu'il a écrit me plaît davantage. Ça s'appelle Babelville. Babel-Ville. Parce que Biallo était un type qui avait appris l'histoire, qui était féru d'histoire, et qui connaît l'histoire de toutes les rues de Paris. Notamment, il a un recueil de nouvelles qui s'appelle Cholestérol, je ne sais quel numéro, 42. Il raconte l'histoire de la plus petite rue de Paris. C'est vraiment passionnant. Alors, il y a du polar, il y a du pas polar, et il y a surtout son humour. Alors, c'est d'humour, des fois, c'est l'humour de genre Almanach Vermont, c'est la grosse blague énorme, lourde, et puis d'autres fois, c'est beaucoup plus subtil. Ça dépend des récits, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du sujet. Mais moi, il me téléphonait régulièrement, tous les 15 jours environ. Ça s'était un peu ralenti ces derniers temps, mais pour me raconter une blague juive. Et c'était le champion des blagues juives. Il avait toujours une de réserve et c'était agréable. Simplement, il vous appelait, hein, comme ça. Tiens, j'en connais une, Claude. Et il me l'a raconté. Et puis, au revoir. Et puis, on attendait la prochaine. C'était vraiment un type délicieux.
Voilà, un hommage à Joseph Biallo. Monsieur Dusport, un mot?
Je reste en voix, là.
Donc,
et vous savez qu'il y a tellement il avait l'humour, il avait un numéro de matricule marqué sur son bras qui était tatoué. J'ai deux histoires là-dessus. La première, c'était une fois, il était en Allemagne avec sa femme, sur le quai d'une gare en train de se restaurer, et le type qui vendait les kartoffeln avec la saucisse, c'était un étudiant qui tout d'un coup a eu le regard attiré par ce chiffre, puisqu'on était en été, il avait relevé ses manches. Et le type s'est confondu en excuses, il pleurait presque en lui disant qu'il regrettait beaucoup et c'était une histoire bouleversante parce que c'était Biallo qui était obligé de réconforter le gars, quoi. Et la deuxième, c'est que ces chiffres-là, il les jouait au loto toutes les semaines et qu'il a jamais gagné une seule fois.
On parlait d'humour juste avant. L'humour, c'est quand même une chose qui est très importante, je pense, dans les romans noirs.
Oui, hein, la dérision,
l'humour. Alors, selon les auteurs, elle est plus ou moins cinglante, elle est plus ou moins fine.
Oui,
on va dire. Mais c'est pas avec votre regard d'analyste, c'est pas un passage un petit peu obligé par rapport à la noirceur des descriptions, des situations. C'est pas le contrepoint.
Je sais pas si c'est le contrepoint. C'est sans doute le contrepoint chez Biallo, parce qu'il disait, je ne sais qui a dit que l'humour c'était la politesse du désespoir.
Voilà, vous êtes toujours dans Éclat de lire, hein, sur Radio Éphémère avec Claude Mesplède et Monsieur Dusport, et on parle bien évidemment des littératures policières. Alors, avant de conclure, avant de passer plutôt à l'hommage que vous voudriez faire à Joseph Biallo, on dit un petit mot de conclusion sur tout ce qui vient de s'échanger à propos des États-Unis et du polar.
Ouais, alors moi j'ai juste un petit bémol. Enfin bon, c'est peut-être un oubli, mais enfin moi dans mon esprit, mon histoire du polar, du roman noir, ça commençait avec Edgar Poe et avec l'inspecteur Dupin.
On peut pas dire que
la lettre volée
noir, parce que Edgar Poe c'est le début du roman policier, parce que le personnage de Dupin c'est un personnage qui travaille par déduction, donc c'est la première fois que ça s'interpose, c'est qu'on voit ça dans une histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a daté la naissance de ce type de livre en 1841 avec une nouvelle qui s'appelle Double meurtre dans la rue
Morgue.
Mais moi je suis encore plus taquin que vous, parce que je trouve que Hoffmann, le fameux Hoffmann qui a fait les contes, il a écrit Mademoiselle de Scudéry, qui est un premier roman policier avant l'autre de Edgar Poe, puisqu'il date de 1818, où Mademoiselle de Scudéry, cette femme qui a inventé la carte du tendre sous Louis XIV et qui a vécu jusqu'à 94 ans, est une personne active de cette histoire, qui est une histoire de serial killer. C'est le premier tueur en série de toute l'histoire des policiers, et ça date de 1818. C'est un orfèvre, c'est-à-dire un bijoutier, qui vend des montres ou des bagues très, très chères à des messieurs qui ont de l'argent, qui veulent offrir ça à leur fiancée. Et le lendemain matin, inévitablement, on trouve le mec assassiné et la bague qui a disparu. Alors, il y a un jeune type qui est soupçonné, Mademoiselle Seguiré intervient. Mais c'est pour dire que on peut toujours trouver mieux.
Oui.
Il y a aussi le fameux truc là, comment ça s'appelle déjà, ça m'est reparti, l'assassinat des Beaux-Arts là, c'est un peu ça, de Thomas de Quincey, un anglais, l'assassinat, et il a écrit trois histoires qui s'étalent sur 20 ans, alors c'est difficile à dater aussi. Mais enfin, le roman noir, c'est pas tout à fait un roman de déduction, c'est un roman qui critique la société, qui analyse ses dysfonctionnements, et c'est pour ça que on peut pas le dater de Edgar Poe, qui avait vraiment pas du tout l'intention de faire ça. Il rendait hommage à Vidocq, notre fameux Vidocq François, qui avait été le premier bagnard à devenir préfet de police, et c'était quand il a écrit ses mémoires en 1828, ou qu'il les a fait écrire par des types qu'on appelait des réviseurs à l'époque. Elles ont fait le tour du monde, et Edgar Poe a été tellement stupéfait de lire ça qu'en hommage, il a réussi à mettre Dupin en France et à situer ses trois nouvelles il a faites en France, en hommage. Mais je pense pas que ça soit ça du roman noir. Parce que déjà, moi, je me suis trouvé dans un débat avec des types qui parlaient de romans noirs avec Oedipe. Alors, le Sphinx. Oui. Alors, je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, mais il faut quand même pas exagérer.
On peut remonter comme ça.
C'est pour ça,
oui,
que je veux faire un truc là-dessus, parce que chacun, il met tout ce qu'il... Si vous mettez, une fois, on était en Espagne, vous prenez 20 écrivains espagnols, vous les mettez dans une pièce et vous demandez ce qu'est le roman noir, vous avez 20 réponses différentes. Chacun la voit à sa porte, comme dit l'autre.
Alors, quelques mots maintenant sur Joseph Bialo qui nous a quittés il y a 10 jours exactement.
Ouais, le dimanche 25 novembre. Alors déjà, je vous annonce que la semaine prochaine, le 11, mardi 11, je ferai une intervention à la librairie Série B qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines, rue Sainte-Ursule. Et donc, ça sera à 19h, mardi 11 décembre. Nous parlerons donc de Joseph Bialo, de son œuvre et de ce qu'il était comme homme, parce que au-delà de l'œuvre, c'était un homme exceptionnel, comme on en rencontrera rarement dans sa vie. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer deux. Il y en a un qui s'appelait Robin Cook et le deuxième s'appelait Joseph Bialo. Ce sont des gens qui ont été confrontés à des tas d'épreuves, qui ont toujours gardé le cap, qui ont su se départir de tout ce qu'ils avaient subi pour être des gens amicaux, humanistes, et ça c'est important, parce que quand on a subi ce qu'il avait subi, alors pour rentrer dans les détails, Joseph Bialo, il s'appelle Bialo Blodo, c'est un
polonais.
Oui, je vais dire un portugais, non, c'est pas tout à fait la même région. C'est un polonais qui est né le 11 août 1923. Non, le 10 août 1923, parce que je dis ça parce que le 11 août, il a été déporté, donc juste, il venait de fêter ses 21 ans. Alors, il est né en Pologne et en 1930, 7 ans après, il avait 7 ans, il est arrivé en France avec sa sœur et sa maman. par un train, ou deux jours de transport. Et son père lui a dit, ils sont arrivés le 16 juillet. Son père lui a dit, tu serais venu plus tôt, tu aurais vu les gens danser dans les rues. Alors il était tellement fasciné en disant, mais comment ça se fait? Il y a des gens qui dansent dans les rues, ils doivent pas être très normaux. Et tout son livre qui s'appelle Blues Belleville Blues, est un petit livre de 100 pages où il raconte plein de petites choses comme ça quand il était enfant. Alors par exemple, il va rentrer à l'école communale qui se situait 77 boulevard de Belleville. Et il rentre le 1er octobre, c'était la date des choses à cette époque-là, c'était le 1er octobre, on avait trois mois de vacances, je crois. Il connaît à peine le français, tout juste, puisqu'il est arrivé le 16 juillet, donc ça fait pas longtemps pour apprendre à 7 ans. Mais malgré tout, il est dernier de sa classe, et on le punit, et on le colle, on le met tout seul sur un banc, à rester dans la classe pendant que les autres sont partis. Alors il ressent ça comme une profonde injustice. Et comme si ça avait été le déclencheur d'une truc, 7 ans plus tard, quand il passe le concours pour rentrer à l'école, au cours complémentaire, ce qui correspondrait, je pense, à la 6e aujourd'hui, où c'était à 14 ans qu'on rentrait là-dedans, il est premier de l'arrondissement. Et on lui remet un carnet de caisse d'épargne avec 90 francs. Et il précise, je n'étais pas encore naturalisé, sinon j'aurais eu 100 francs. Et il va faire deux pages de méditation sur le fait que d'être naturalisé ou pas, vous perdez 10 francs. Et il a tout perdu, lui, puisqu'après son carnet, c'était la guerre. Et donc, alors voilà. Alors, il était juif, bien sûr. Ça, c'est une de ses particularités qui a fait qu'il a été déporté. Et pendant l'exode, il est descendu dans le sud de la France. Il a laissé sa famille et il est allé à Bordeaux, à Pau et à Grenoble. Il avait des faux papiers, évidemment. Et il racontait comment on avait des faux papiers. Il fallait acheter une carte d'identité normale, coller sa photo, faire valoir un extrait de naissance et à la mairie, vous tamponnez ça, c'était mieux que des trucs fabriqués. Alors, il se fait choper à Grenoble en sortant d'une réunion de militants communistes par la milice. Ses papiers sont en règle, mais comme il dit, on me fait passer par l'exécuteur de Saint-Prépuce. Oui, la machine a détecté Saint-Prépuce et puis il est capturé comme ça, donc sur le fait qu'il est juif. Il est en prison à Grenoble, puis transféré à Lyon, après avoir été brutalisé par la Gestapo, le supplice de la baignoire, mais il n'a pas parlé, parce qu'il avait sa sœur qui était à la même adresse que lui. Comme elle ne l'a pas vu rentrer, il a dû lui laisser le temps de s'enfuir. Donc il est mis dans un train, le dernier convoi qui est parti de France, le 11 août, depuis Drancy, et il va être amené d'abord à Birkenau, et ensuite à Auschwitz. Et là, il va raconter, s'il arrive en août 44, il sera libéré en janvier 45 par l'armée rouge. Ça fait pas beaucoup de mois qu'il y a passé, mais il a vu des choses horribles. Et notamment, il raconte un épisode avec c'est pas une Polonaise, c'est pas une Russe, je sais plus ce que c'est, sa nationalité. Elle est condamnée à mort, elle se tranche les veines devant le SS qui l'a, et elle lui crache dessus, elle le gifle et elle le barbouille de sang. Et puis voilà, elle est exécutée. Ouais, mais c'est ce qu'il a raconté. Alors il raconte donc ces histoires, mais il les a racontées 50 ans après. Parce que sa vie a recommencé, bien sûr, puisqu'il a été libéré par l'armée rouge. Il a mis 3 mois pour rentrer à Paris, parce qu'il est allé jusqu'à Odessa. Enfin, il a fait un périple incroyable. Et quand vous lisez ce livre, là, il y a une scène où vous ne pouvez pas rester insensible. Moi, j'ai pleuré comme un gosse. C'est quand il arrive chez lui, il monte l'escalier, il est au premier étage, il sonne, la porte s'ouvre, sa mère arrive, elle ne sait pas qu'il est là, bien sûr. Et ils se voient les deux, ils tombent dans les bras. C'est bouleversant.
C'est ce qu'il raconte dans le livre « C'est en hiver ».
C'est en hiver que les jours rallongent, qui a été rebaptisé 10 ans après, avec 40 ou 50 pages de plus, et qui s'appelle « Votre fumée
montera vers le ciel ».
Voilà. C'est des titres horribles, qui disent bien ce qui est... Alors, au-delà de cela, parce que ça, c'est des livres qu'il a écrits, le premier, c'est Un hiver clair, jour rallonge, en 2002, et le Votre fumée, c'est en 2011. Livre, je le signale au passage, que François Maspero a qualifié d'aussi bouleversant que ceux de Primo Levi, ce qui est quand même une sacrée référence. Et il a écrit son premier livre à 55 ans, qui n'avait rien à voir avec la déportation. C'était un livre qui s'appelait Le Salon du Prêt-à-Saigner, qui se déroule dans le quartier du Sentier, puisqu'il était fourreur au départ, et c'est un quartier mythique pour ça. C'est le quartier de la fourrure, mais qui a beaucoup changé. La confection que Dominique Manotti a écrit, c'est son premier roman qui s'appelle Sombre Sentier, qu'ils ont traduit en anglais et en espagnol par Sombre Sentier. Ils pensent que c'est un sentier de montagne, alors que c'est le nom même du quartier. Oui, mais qui a beaucoup évolué, parce que à un moment donné, quand elle raconte ça en 1980, elle était secrétaire syndicale du secteur, c'était des Turcs, il y avait 10 000 Turcs qui ont manifesté pour avoir des papiers, qui les ont eus, qui sont assimilés à la population française aujourd'hui. Maintenant, c'est des Coréens ou des Chinois qui les ont remplacés. Puis demain, ça sera autre chose. Chaque fois, chaque régénération, il y a eu des ethnies ou des nationalités différentes qui se sont intégrées et qui ont été remplacées par d'autres. Alors, c'est dans ce quartier qu'il raconte sa première histoire. C'est un Yougoslave qui s'appelle Josip, comme tout Yougoslave qui se respecte. C'est Josip, c'est bien Yougoslave. Et qui fait chanter les gens, qui les oblige à verser de l'argent sous forme de chantage. Jusqu'au jour où ils se révoltent, ces types-là, et puis c'est le drame. Le deuxième roman qu'il a écrit me plaît davantage. Ça s'appelle Babelville. Babel-Dunionville. Parce que Biallo était un type qui avait appris l'histoire, qui était féru d'histoire, et qui connaît l'histoire de toutes les rues de Paris. Notamment, il a un recueil de nouvelles qui s'appelle Cholestérol, je ne sais quel numéro, 42. Il raconte l'histoire de la plus petite rue de Paris. C'est vraiment passionnant. Alors, il y a du polar, il y a du pas polar, et il y a surtout son humour. Alors, c'est d'humour, des fois, c'est l'humour de genre Almanach Vermont, c'est la grosse blague énorme, lourde, et puis d'autres fois, c'est beaucoup plus subtil. Ça dépend des récits, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du sujet. Mais moi, il me téléphonait régulièrement, tous les 15 jours environ. Ça s'était un peu ralenti ces derniers temps, mais pour me raconter une blague juive. Et c'était le champion des blagues juives. Il avait toujours une de réserve et c'était agréable. Simplement, il vous appelait, hein, comme ça. Tiens, j'en connais une, Claude. Et il me l'a raconté. Et puis, au revoir. Et puis, on attendait la prochaine. C'était vraiment un type délicieux.
Voilà, un hommage à Joseph Biallo. Monsieur Dusport, un mot?
Je reste sans voix, là.
Donc,
et vous savez qu'il y a tellement il avait l'humour, il avait un numéro de matricule marqué sur son bras qui était tatoué. J'ai deux histoires là-dessus. La première, c'était une fois, il était en Allemagne avec sa femme, sur le quai d'une gare en train de se restaurer, et le type qui vendait les kartoffels avec la saucisse, c'était un étudiant qui tout d'un coup a eu le regard attiré par ce chiffre, puisqu'on était en été, il avait relevé ses manches. Et le type s'est confondu en excuses, il pleurait presque en lui disant qu'il regrettait beaucoup et c'était une histoire bouleversante parce que c'était Biallo qui était obligé de réconforter le gars, quoi. Et la deuxième, c'est que ces chiffres-là, il les jouait au loto toutes les semaines et qu'il a jamais gagné une seule fois.
On parlait d'humour juste avant. L'humour, c'est quand même une chose qui est très importante, je pense, dans les romans noirs.
Oui, hein, la dérision,
l'humour. Alors, selon les auteurs, elle est plus ou moins cinglante, elle est plus ou moins fine.
Oui.
On va dire. Mais c'est pas avec votre regard d'analyste, c'est pas un passage un petit peu obligé par rapport à la noirceur des descriptions, des situations. C'est pas le contrepoint.
Je sais pas si c'est le contrepoint. C'est sans doute le contrepoint chez Biallo, parce qu'il disait, je ne sais qui a dit que l'humour c'était la politesse du désespoir. Et je crois que c'est aussi une façon de pas se prendre au sérieux. Parce que il y en a trop qui se prennent au sérieux, et moi je sais que l'humour ça me sert à ça. On est sérieux, mais on se prend pas au sérieux. C'est pas la même chose.
On garde
ses distances. Je veux dire qu'on est sérieux pour travailler, pour faire ce qu'on fait, on le fait le mieux possible. Mais ça veut pas dire que pour cela, on se prend au sérieux. Parce que comme disait je ne sais qui, ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant. C'est un philosophe du 17e, mais j'ai oublié son nom.
On parle un petit peu de votre festival, le festival que vous organisez chaque année.
Ça fait 4 ans là, c'est la 5e année qu'on est en train de préparer. Alors c'est un festival qu'on a créé parce qu'il nous semblait qu'une ville comme Toulouse ne pouvait pas ne pas avoir de festival, d'autant qu'il y a au moins 25 ou 30 auteurs de polar dans la ville ou aux alentours. Et il fallait qu'on se distingue d'une certaine façon par rapport aux autres, parce qu'il y a à peu près 60 festivals plus ou moins grands. Et notre façon de nous distinguer, ça a été de nous rapprocher des pays méditerranéens comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce ou la Turquie. Et on a créé un prix qui s'appelle le prix Violeta Negra, qui est attribué par un jury présidé par une personnalité généralement du showbiz ou du cinéma, ce qui est à peu près la même chose. Et ce choix se fait à partir de textes qui sont issus des langues dont je viens de parler. Alors la grande innovation cette année, c'est qu'on a un polar qui vient d'Arabie Saoudite.
Ah oui, c'est
quand même assez rare.
C'est rare. Mmh.
C'est un polar de 700 pages d'une femme qui avait déjà été publié à Actes Sud pour un autre livre qui n'était pas tellement polar. Et là, je me rappelle plus le titre. Le collier de la colombe, voilà, c'est un style très très riche, comme savent le faire les Arabes quand ils racontent les contes des mille et une nuits. C'est pas du direct, c'est pas du roman américain écrit comme ça à coup de poing, c'est plutôt enrobé, je dirais. Mais c'est très intéressant pour nous parce que on a l'impression que avec ce prix, on fait connaître les littératures qui jusqu'à présent étaient un peu négligées. Parce qu'il faut savoir par exemple qu'en France, chaque année, vous avez 5500 traductions, je parle en gros, hein, de romans américains, tout confondu, il n'y a pas que des polars. Et vous avez à côté de ça 300 traductions d'espagnol ou 80 traductions de portugais. Alors les pauvres, ils sont quand même à la portion congrue. Et quand on prend dans le polar, les portugais, ça doit faire 3 dans l'année, quoi. Alors s'il n'y a personne qui en parle, et généralement c'est ce qui se passe, parce que par exemple, est-ce que vous connaissez beaucoup de romans policiers allemands qui sortent chaque année? Mais personne n'en connaît trop parce que personne n'en parle, mais il y en a au moins 20 ou 30 qui sortent. Seulement les gens le savent pas, ils vont directement aux Anglais, aux Américains, parce que ça c'est des gens qui connaissent, qui ont un support de presse, qui sont véhiculés par des critiques, etc.
Mais c'est aussi historique, hein, un petit peu, on peut dire que bon bah le roman noir, le polar, c'est un petit peu né aux États-Unis. Ça a été popularisé en France grâce à la série noire de Marcel Duhamel. C'est un petit peu les deux places fortes, on va dire, dans le monde.
Certes, c'est sûr, mais de toute façon, on pourrait dire que le rock aussi est américain, et pourtant, le rock français, il a le droit de citer. Alors que là, c'est pas parce qu'ils sont à l'origine du truc qu'il faut qu'ils phagocytent toute la planète.
On est bien d'accord.
Donc, le fait est qu'ils ont lancé, et la leçon de Ahmed, c'est celle-là, c'est qu'on peut parler de tout. Et tous les types qui sont dans les différents pays, dès qu'ils ont eu la possibilité de le faire, ils l'ont fait. En Espagne, on a attendu que Franco dégage pour pouvoir en parler. Et en Italie, que ce soit Mussolini, pareil. Et en Russie, que ce soit d'autres. Alors, tous les pays où il y avait des dictatures, ils pouvaient pas parler. Le jour où ils l'ont pu, ils ont pris l'exemple américain. Mais c'est pas pour ça que les Américains doivent coloniser le truc. Il y a les meilleurs sont, pour mon sens, souvent les Américains. Mais il n'y a pas que, c'est ça que je veux dire. Et justement, notre travail, c'est de faire connaître les Espagnols, par exemple. Depuis qu'on en parle de 4 ans, et le premier prix Violeta Negra, c'était un Espagnol qui s'appelle... qui a fait les empereurs de Empereur des Ténèbres, donc qui a donné lieu à un film. Eh bien, l'année dernière, au Grand Prix de littérature policière étrangère, sur 16 livres sélectionnés, il y avait 6 Espagnols, ce qui n'est jamais arrivé parce que des fois il y en a un et c'est pas tous les ans. Là, d'un coup, il y en avait 6. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus à notre festival, qui viennent d'autres festivals ou les critiques qui sont venus, ils ont découvert ces types-là. Parce qu'on en a parlé, parce qu'on les a invités. Si on n'avait pas fait ça, eh bien, les types seraient encore dans l'oubli. Et maintenant, ils sont invités en Bretagne, ils sont invités dans le Nord, ils sont invités à Nice, ils sont invités un peu partout, parce que c'est une espèce de boule de neige, vous savez. Vous allez dans un salon, vous voyez... Moi, je vais aller à Lyon, je vais voir un tel, bon, je le dis, l'année prochaine, on l'invite chez nous. C'est un peu comme ça que ça se passe. On découvre au fur et à mesure que les autres découvrent. Et c'est un espèce de mouvement collectif. Alors donc, on a fait progresser la cause du roman noir espagnol et italien. Voilà, donc l'année prochaine, et argentin, oui, parce que les Argentins sont vraiment les top top. Alors l'année prochaine, on a commencé à parler de ce qu'on va, qui on va inviter, mais on est toujours limité par le nombre de places, parce que notre subvention, parce qu'on reçoit une subvention de la mairie, des aides du conseil régional, du conseil général. Et par contre, on a reçu une réponse négative du Conseil national du livre, du Centre national du livre, sous le label suivant. Monsieur, nous avons pour habitude d'aider les manifestations qui invitent des écrivains. Alors, on s'est regardé et on a demandé, j'ai fait une réponse, c'est la première fois que je réponds à un refus, parce que d'habitude, chacun est libre de ses choix, donc il refuse et refuse. Mais là, c'était absolument hilarant, ce motif. Et j'ai dit que je me posais des questions sur la santé mentale des membres de la commission qui avaient refusé, parce que Maître Jean Vautrin, Paco Taibo, González Ledesma, comme des gens qui ne sont pas des écrivains, je me demande ce qu'il leur faut. Enfin, voilà où on en est.
Pend sur le bec, comme dirait l'autre.
Et cette année, nous allons avoir des Américains, nous pensons avoir James Salis.
Oui.
Il ne faut pas le dire ?
Non.
Ah, trop tard. Trop tard. Et bon, je suis très très fan.
On ne dévalorera rien, je te le dirai comme ça hors micro. Voilà, donc on va faire des débats, encore une fois, avec des auteurs.
Je rebondis sur cette histoire d'écrivain et j'ai une remarque, j'ai remarqué que la plupart des auteurs modernes, qu'ils soient américains, anglais, français, peu importe, sont très souvent à l'origine journalistes, c'est-à-dire travaillent déjà dans l'écriture, ont déjà l'écriture comme métier, dire. Et est-ce que c'est un bien ou parce que en fait ces gens-là ont plus de facilité.
On n'a pas jugé de leur truc, mais moi je sais que j'avais écrit un article qui s'appelle les premiers auteurs de la série noire, les précurseurs. Où on disait ces types-là, ils ont fait leur vie en vagabondant le long des rues pendant la dépression. Puis j'avais fait une enquête sérieuse, et ils avaient tous fait l'université, ils étaient tous journalistes. Alors c'était non, je pense que ça aide. Le journalisme, ça aide à la concision, ça aide à plein de trucs.
L'investigation, oui.
Ouais. C'est pas un mal, mais on n'est pas obligé d'être journaliste pour ça.
Oui, bon, enfin bon, la plupart sont d'anciens journalistes, Denis Lehan, Michael Connelly.
Ah non, Denis Lehan, il a jamais été journaliste. Il était.
Non, je confonds avec.
Il était gardien de voiture dans un palace. Non, mais
je confonds avec David Simon qui a beaucoup collaboré avec lui, plus pour des séries policières d'ailleurs télé que pour
The Wire.
Voilà, The Wire entre autres, quoi. Dans lequel Denis Lehan apparaît dans plusieurs épisodes, il scénarise plusieurs épisodes.
Oui, il en scénarise 6, Pelecanos
aussi. Comme Pelecanos aussi,
Price,
quoi.
Price aussi.
On va conclure, malheureusement.
Ah oui, il faut conclure.
Hein, parce que je crois que vous êtes attendu ailleurs, on va pas dévoiler où. Ouais. Non. Parce que bon, c'est nos affaires personnelles.
Mais alors. On a trop à dire, il faudra revenir.
Absolument, absolument. Je pense qu'on pourrait carrément faire une chronique régulière.
C'est
un espèce
envisager.
De feuilleton.
Oui, oui.
Un espèce de feuilleton, ce serait pas plus mal. Claude Mesplède, on vous remercie vraiment très très fort. Vous remercie très fort, parce que vraiment,
j'ai rencontré un spécialiste comme vous.
J'ai dû engueuler Catherine du peu de temps qu'elle vous avait laissé la dernière fois qu'elle vous avait invité.
C'était il y a un an pour le salon Vivons Libre.
Ouais,
je
c'est
crois.
Ça, c'est ça. Et donc là, j'étais vraiment je suis très honoré en fait d'avoir pu un petit peu converser avec vous, et j'espère que nous pourrons continuer une autre fois.
Parce que vous connaissez bien le sujet.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et on pourra un petit peu cerner un peu plus dans les détails certains sujets.
Avec plaisir.
Catherine, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, je dirais qu'on peut retrouver des tas d'informations sur le site de Claude Mesplède, Calibre 47, si vous avez bien
même
sûr.
Même s'il n'est pas toujours à jour.
Même s'il n'est pas toujours à jour, c'est une source d'informations presque inépuisable.
Voilà, enfin disons, on peut toujours, on a des indications qui permettent justement d'aller d'aller un petit peu plus loin, quoi. C'est un travail de passeur, ce n'est pas un travail de
exactement.
Critique. Ça incite les gens à lire, parce que bon ben, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que le cinéma. Mmh. Les bouquins, c'est quand même vachement mieux de temps en temps.
Merci à vous. À très bientôt.